Je place devant toi la malédiction et la bénédiction. Ça, c'est les paroles de Moïse quand il parlait au peuple d'Israël à maintes reprises dans les Deutéronomes. On le voit au chapitre 18, au chapitre 30. Et Moïse qui dit, mais choisis. Choisis quoi? Qu'est-ce que vous voulez choisir ce soir? Ben évidemment, la bénédiction. Choisis la bénédiction. Ce matin, j'ai accompagné mes enfants à l'aéroport parce qu'ils partaient en vacances à 5 heures. L'avion partait très tôt. Et quand je suis sorti de l'aéroport, c'était 5h30, je me suis dit, tiens, je vais aller à mon bureau, j'ai mon bureau qui est juste là à côté, pour travailler avant le culte. Le Seigneur m'a repris. Vous voyez comment on fait des bêtises? Il n'y a rien de grave, mais le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Ce n'est pas un jour pour travailler avant le culte. Et du coup, je suis rentré à la maison, j'habite tout près du signal de Bernay, et je suis parti me promener, il faisait juste jour, et je marchais. Et je croisais des gens qui faisaient du footing, j'en ai croisé 9 ou 10. Et je me suis un peu attardé comme ça, comme si je m'approchais un tout petit peu de Walter, mais gentiment, discrètement. Bonjour, bon dimanche. Après, je m'approche d'Isabelle. Bonjour, bon dimanche. 9 personnes. Juste 2 personnes. Bonjour.
Bonjour.
Les autres, niette. Puis je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi? Et tous les autres, ben ils avaient soit un truc comme ça, dans les mains, tout en marchant, tout en faisant du footing, soit ils avaient les oreillettes sur les oreilles, ils écoutaient la musique, soit ils étaient sur une tablette, soit ils étaient sur Facebook ou je ne sais pas quoi, ou soit ils tapaient un SMS, déjà de bonne heure ce matin, à 6 heures. Je ne sais pas si après ils allaient à l'église, mais en tout cas, ils étaient déjà en route. Et il n'y avait pas de communication, ils étaient dans leur monde. Ils étaient dans leur... dans leur bulle. J'y reviendrai tout à l'heure. Choisis la bénédiction. Dans la Bible, un des plus vieux métiers, du plus vieux métier dans la Bible, biblique, le fils d'Adam et Ève, Abel, il était quoi? Il était berger. Et le thème de ce soir, choisis la bénédiction, il est sur la base du psaume 23. Oh, vous allez me dire, mais oui, moi ça fait 40 ans que je suis chrétien, je connais ce psaume par cœur, je peux te le réciter. Oui, il suffit de le mettre en pratique, chers amis. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Walter, tu peux prendre la parole, c'est fini. C'est terminé. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Waouh! L'Éternel est mon berger. J'ai 2 questions ce soir à vous poser. Et c'est vous qui allez m'aider. Parce que moi, j'ai quelques défaillances. C'est quoi un berger? Qu'est-ce qu'il fait, le berger? Dites-moi. 1 mot, 2 mots, 3 mots. Quelle est la fonction du berger? Oui? Ouais, et encore? Ouais, oui. Est-ce qu'il gronde? Est-ce qu'il tape? Pas forcément. Ouais, des fois, il corrige. Hein? Les fonctions principales du berger, il dirige, il conduit, il protège, il guide, il défend, il instruit, il donne, il se donne. Ça, c'est important. Il observe. Il a la vue de l'ensemble sur tout son troupeau. Alors ça, c'est la première question. Qu'est-ce qu'un berger? Est-ce que l'Éternel est mon berger? Est-ce que l'Éternel, est-ce que Dieu est mon berger dans ma vie? 100%, 50%, 10, 20, plus, moins. Ou bien alors, et je suis mal placé pour vous dire quelque chose, est-ce que c'est mon travail? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que ce sont mes hobbies? Est-ce que c'est... Ah, je reviens sur cette histoire. Ça, c'est un outil magnifique. C'est un outil de travail absolument génial. Je peux vous le dire parce que je m'en sers au quotidien. Ça remplace presque une secrétaire. Presque. Mais pas vraiment. Mais ce truc, ça peut devenir épouvantable. Ça peut devenir une drogue. Et là, je ne m'adresse pas qu'aux jeunes. Je m'adresse à tous les âges. Quelle utilisation je fais de cet appareil? Est-ce que c'est une utilisation professionnelle? Ok, alléluia. ou de temps en temps pour me détendre, pourquoi pas? Les psychologues, les psychiatres et les professionnels de la santé se retrouvent en ce moment depuis quelques semaines parce qu'ils tirent la sonnette d'alarme par rapport à ce truc qui s'appelle un smartphone, une tablette ou que sais-je. Pour certains, ça devient une drogue. Pour certains, jamais sans mon écran, on voit sur la plage une publicité à la télévision, il y a un tas de sable, les enfants jouent au sable, et puis entre deux tas de sable, il y a le smartphone. Et puis on regarde un film ou n'importe quoi, pendant qu'on est devant un paysage absolument magnifique. Et alors que j'étais au signal de Bernet ce matin, mais allez-y de temps en temps, allez vous ressourcer dans la nature. Des champs de maïs, des champs de tournesols, des vignes incroyables, des champs de blé, un salève, une montagne, un Jura, une vue, vous pouvez prier pour toute la ville de Genève. Magnifique! Est-ce que ce n'est pas mieux que d'aller dans mon bureau m'enfermer? Le choix, il est vite fait. Choisis la bénédiction. Ça ne veut pas dire que mon bureau, c'est la malédiction, mais attention, attention, je sais où il y a le piège chez moi. Je connais. Et ces psychologues, ce monde de la santé qui dénonce cette espèce d'hyperconnectivité qui est présente dans la société, qui devient une addiction, qui devient une dépendance. Et après, chacun, c'est l'image que j'avais ce matin, chacun est dans sa bulle, chacun est dans son monde virtuel, chacun s'éloigne et il prend beaucoup de temps. Et les psychologues qui disent, mais un jeune sur 10, on parle de jeunes parce que c'est la société montante, mais plus tard aussi les adultes, un jeune sur 10 est dépendant de cet appareil, est victime et voué à l'addiction. Il passe entre 4 heures et 5 heures par jour sur cet appareil. Et tout ceci, il n'y a rien de mal en soi d'avoir cet appareil, mais comment est-ce que je le gère? Où est ma priorité? C'est la question que je pose. Qui est mon berger? Est-ce que c'est cet appareil qui conduit ma vie? Quelle est la priorité? Combien de temps je passe avec le Seigneur par rapport à ça ou par rapport à une autre distraction? Est-ce que vous avez un balcon ou un jardin? Qui a un balcon ou un jardin où il y met des fleurs ou des légumes? Waouh, magnifique! Dites-moi si je dis vrai. Est-ce que les mauvaises herbes poussent moins vite que la bonne semence? Et moi, je suis fils de paysan. J'ai toujours été et j'ai toujours posé des questions à mes parents. Je voyais ces chardons. Et ça pique, hein, les chardons. Waouh! Les chardons qui poussent en 15 jours, un chardon fait facilement 80 ou 1 mètre de haut. Il n'y a pas la bonne terre. Il pousse dans un endroit pierreux. Il n'y a pas d'eau, pas d'engrais, rien du tout, et ça pousse. Et la bonne semence! Waouh, c'est long! Il faut mettre de la bonne terre. Il faut arroser, il faut traiter contre les maladies, il faut traiter contre les insectes, il faut corriger, il faut mettre des tuteurs parce qu'il faut orienter du côté du soleil. Il y a tout un travail, mais alors, et après la bénédiction, le fruit, il est là, et le chardon, on le brûle. Qu'est-ce qu'on choisit? La bonne semence ou la mauvaise herbe? Mais on est impressionné par cette mauvaise herbe qui s'étale. Regardez les liserons. Ça s'étale sur la largeur et les liserons et les chardons, ça pousse sur la hauteur. Choisis la bénédiction, c'est une détermination. Et dans ce psaume, on continue, hein, donc on a vu les promesses de Dieu. Si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et cette parole, elle est pour chacun de nous, c'est une certitude, c'est une garantie à 100%. La seule chose, c'est qu'il faut que l'Éternel soit mon berger. Moi, je vous le dis, l'Éternel n'est pas toujours mon berger. L'Éternel devrait être toujours mon berger. Celui qui peut me dire ce soir, l'Éternel est 24 heures sur 24 mon berger, eh bien, je dis, ben, bravo, et enseigne-moi comment tu fais. J'essaye, je tends vraiment vers cette dépendance de Dieu, mais je ne suis pas à 100%, parce qu'il y a des jours où on fait un pas en avant, ou plutôt trois pas en avant et parfois un pas en arrière. Mais on va dans ce sens, choisis la bénédiction. Et après, dans ce verset 4 et 5, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Ah tiens, dans ce psaume, tout d'un coup, on change de discours. Bénédiction, promesse, vie, victoire. Et puis tout d'un coup, David nous dit, mais quand je marche dans la vallée de la mort, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, on dirait qu'il change de discours. Alors moi, j'ai pensé que, ouais, si par malchance, une fois, je marche dans la vallée de la mort, mais c'est juste une fois. Non, David dit « quand je marche », sous-entendu que c'est des choses qui arrivent. Et ça a été très bien rappelé par Walter ce matin dans l'épître de Pierre, il y a des moments d'épreuve, il y a parfois des moments de souffrance. Mais si Dieu nous prépare une épreuve, si Dieu permet une épreuve, il prépare le moyen d'en sortir. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, dans ce texte, « quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ton bâton et ta houlette me protègent. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, enfin dans la Bible, dans le pays d'Israël, on marche volontiers avec une canne, avec un bâton plutôt, parce que les chemins sont escarpés. Et à cause des bêtes sauvages, surtout des serpents. Donc le bâton est vraiment une arme offensive pour chasser les vilaines bêtes. Et en général, le berger marche toujours avec un bâton. Et la houlette, qu'est-ce que la houlette? La houlette, alors, ça ressemble à un bâton, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus haut. La houlette, c'est quelque chose qui fait, en tout cas, la hauteur d'un homme, 1,80 m, 2 m. Et le berger, comme c'est un très très long bâton, il ramène les brebis. Parce qu'il y a des brebis qui vont à gauche, il y en a qui vont à droite, il y en a qui vont trop en avant, il y en a qui vont trop en arrière, et il ramène, il tire avec sa canne, il passe la canne ouverte, enfin le bâton ouvert, et puis il ramène les brebis. Et puis de l'autre côté, il y a une partie métallique où il peut lancer des mottes de terre pour les ramener aussi quand elles s'égarent. Ton bâton et ta houlette me protègent. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis après, dans le verset 5, encore quelque chose de supplémentaire. Non seulement il y a le bâton, non seulement il y a la houlette, mais tu dresses devant moi une table contre l'adversaire. Waouh ! Pour moi, c'est la table de la Sainte Cène. Cette protection incroyable, tellement nécessaire. Je vais y revenir dans quelques instants. Bâton, houlette, table de protection. Et verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront jusqu'à dimanche prochain. Ah non. Tous les jours de ma vie, pour qui? Pour toi, pour ta famille et pour toute ta descendance. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'éternité. Voyez cette promesse, ce psaume 23 qu'on connaît par cœur. Facile à intégrer, mais il faut passer par les étapes. Bénédiction, oui. Promesse, oui. Combat, oui. On va y revenir. Et la victoire, à la fin, totale. Pour tout l'Église, pour le peuple de Dieu, pour ceux qui invoquent son nom, c'est magnifique. Simplement, je reviens un tout petit peu sur ce verset 4 et 5. Oui, parfois, Dieu permet des épreuves. Parfois, il y a des combats. Imaginez, on est dans le peuple d'Israël. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Israël. En Israël, il y a beaucoup de vallées, puis il y a des montagnes. Et quand le peuple d'Israël est entré dans son pays, ben, il y a des montagnes au nord, le Liban. Il y a des montagnes au nord-est, la Syrie, la Jordanie, le Sinaï, en Égypte. De tous les côtés, il y a des montagnes. Dieu a donné la victoire au peuple d'Israël, même s'il y avait des ennemis méchants, puissants, qui tiraient, mais comme on tire sur des lapins, depuis les montagnes. Incroyable cette puissance de Dieu. Même si l'ennemi fait rage, Dieu est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant. Amen. Et ça, c'est très important de le savoir. Waouh ! Alors, on a affaire à un grand, grand Dieu et on a affaire à un petit diable. Ceci dit, attention quand même. Attention quand même, il faut juste connaître sa stratégie de façon que nous puissions la décoder assez rapidement. Je vous raconte une histoire. Quand j'étais ado, je vous ai déjà dit que j'étais fils de paysan, mes parents ont un grand domaine là sur Saint-Julien, en Genevois, et nous passions l'été, en général, à la montagne, tout au sommet du Jura, parce que nous avions une ferme d'alpage avec des troupeaux de vaches. Mon père avait un troupeau de, je ne sais pas, de 80 ou 100 vaches. Et j'étais avec mon frère et nous étions adolescents. Mon père était le berger, le véritable berger. Un jour, mon père a dû partir 2 jours. Il nous a confié le troupeau. Mes amis, le berger n'était pas là. Nous étions bien les apprentis bergers. Nous avions l'habitude quand même. Mais les vaches ne nous reconnaissaient pas parce qu'on n'était pas le véritable berger. Même les chiens bergers, parce que nous avions des chiens bergers qui sont censés garder les vaches. Qu'est-ce qui s'est passé une nuit? La seule nuit où mon père n'était pas là. Une bête sauvage a passé. On ne l'a même pas vu, nous. On ne l'a même pas vu. Est-ce que c'est un renard? Non, ce n'est pas un sanglier, ce n'est pas possible, parce qu'on aurait vu des traces. Probablement un renard. Vous savez ce que c'est qu'un renard? C'est une bête rusée, sauvage, qui pèse 25 kilos. Qu'est-ce qu'elle peut faire contre une vache qui fait 500 kilos? Mais le renard a rôdé dans l'enclos. Et ça a été la panique. Ça a été la peur. Les chiens se sont tus. Mais les vaches ont paniqué, 2 se sont enfuies, mais dans une folie. Elles s'en sont mises à courir, traverser les pâturages, traverser la forêt, et l'une d'elles n'est jamais revenue. Jamais revenue. C'est une semaine après que des promeneurs passés dans la forêt nous ont dit, écoutez, il faudrait aller brûler, débarrasser votre bête, parce qu'elle est en état de décomposition. La malheureuse, dans sa folie, elle s'est prise la patte arrière dans une souche d'arbre. Elle est tombée et elle a agonisé. Et elle a crevé de douleur, de faim et de soif. Tout ça à cause d'un renard. Et à cause, vous vous rendez compte, le doute, la peur, la panique. Alors qu'un renard ne ferait jamais de mal. Impossible à une vache. Le berger n'était pas là. Le renard le savait certainement aussi, et le troupeau aussi. L'importance que l'Éternel soit mon berger. Et ça, c'est la stratégie de l'adversaire. Et c'est là qu'on voit aussi dans la parole de Dieu, Paul, Pierre aussi, quand Paul recommande à Timothée qui tremblait au service du Seigneur, il lui dit, mais Dieu m'a délivré de la gueule du lion à maintes reprises. Et aussi Pierre, au chapitre 5, 8, qui dit, mais l'adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais, qu'est-ce qu'il est dit après? Résistez-lui avec une foi ferme et vous serez inébranlable. Je peux vous dire que c'est une réalité. Je me suis trouvé, j'avais peut-être 6 ans, 7 ans, dans le désert du Negev, en pleine nuit, c'était en 62. Mon père avait une petite 2 chevaux Citroën. Nous dormions sur une tente de camping. Il n'y a pas de tourisme, rien du tout. Et en pleine nuit, on a entendu le lion rugissant. Mais je vous garantis que dans la vallée, autour des... une résonance. Et on avait une toute petite 2 chevaux avec une capote, machin, une petite tente. Et quand il y a un lion qui rugit, ben je vous promets que ça fait peur, ça donne des frissons. Mais il ne voulait pas nous faire du mal. Mon père, il a sorti de la tente, il a allumé les phares de la voiture et le lion, il est parti. Simplement, le lion avait des petits et il voulait défendre ses petits. C'est tout. Il est parti. Il ne voulait pas nous dévorer. Bon, peut-être s'il était affamé, peut-être. Tout ça pour dire que, oui, le diable, c'est le voleur. C'est le menteur. C'est comme ce renard. Il est rusé, mais ses pouvoirs sont limités. Il est l'usurpateur. Il est le calomniateur. Il est là pour vous descendre. Moi, combien de fois, dites-moi si c'est vrai aussi, combien de fois j'ai pris la décision de lire la parole de Dieu avant de partir au travail. Et puis parfois, dites-moi si c'est vrai, parfois on se relâche. Et puis quand on se relâche, il y a le renard qui vient vers nous. Eh, dis donc, t'as vu? T'es un mauvais, t'es nul. Et puis on est découragé. Et puis après on s'éloigne, et après il y a toutes sortes de choses qui viennent. Et voilà, on dérape. Non! On a parlé de l'apôtre Pierre tout à l'heure, il a fait des bêtises dans sa vie. Je fais des bêtises, j'imagine que vous faites des bêtises, mais nous sommes en marche. Et c'est ça qui est super encourageant. C'est que là où le péché a abondé, mais la grâce, elle surabonde. C'est pas qu'elle abonde, mais encore plus. Elle déborde. Et c'est génial. Parce que c'est extrêmement libérateur. Extrêmement libérateur. Je reviens un tout petit peu sur cette table Je me suis pas mal posé des questions sur cette table qui représente pour moi la Sainte-Seine, cette protection absolument indispensable. Je vous dis aussi un truc qui m'est arrivé dans mon enfance, ça m'a marqué. Mes parents faisaient beaucoup d'accueil des personnes en difficulté. Nous avions un grand domaine avec différents annexes, etc. Et moi, je dormais avec mon frère dans une annexe tout seul. Et puis, on accueillait des gens dépendants de l'alcool, des drogues, qui sortaient de prison, ou des problèmes psychiques, etc. Et pendant de nombreuses années, on a accueilli un homme que j'aimais bien, qui s'appelait Marc. Il pesait entre 135 et 145 kilos, suivant les périodes. C'était une armoire à glace. Un homme super charmant. Un homme qui m'aimait bien. Un homme intelligent. Il avait fait son bac, il avait fait des études, mais il avait des gros problèmes psychiques. Mes parents, je pense, n'étaient pas à même de gérer ce genre de situation, et nous encore moins. J'étais enfant. Et quand il était en crise, waouh, aussi sympa il était avec moi, autant il pouvait devenir violent. Et nous, on dormait tout seul dans la chambre. Alors, j'ai demandé à mon père, j'ai dit, écoute, est-ce que le chien peut dormir dans la chambre? Ça, c'était une première satisfaction. Mais après, le chien, des fois, il ne réagissait pas toujours. Il ne se rendait pas bien compte. Le chien, il était dressé pour les animaux, pas pour autre chose. Et un jour, j'ai dit à mon père, écoute, il y a une table, il y a une grosse table en bois massif, s'il te plaît. Mets cette table derrière la porte de la chambre. Tant pis, chaque jour, on va la pousser, on va la remettre, c'est pas grave. Mais on avait besoin d'être sécurisé. Et cette table, et ça a marché, je peux vous dire. Mais bon, quand je repense, bon, Dieu était bon. Dieu a vraiment été bon. Mais bon, voilà. Nous sommes trois enfants, les trois sont au Seigneur, les trois marchent au Seigneur, mais c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce qu'on aurait pu tout envoyer balader. Parce qu'on a vu des choses qu'on n'aurait jamais dû voir et entendre, peu importe. Mais cette table qui était derrière ma chambre, c'était la sécurité. C'était la zone où ce monsieur, aussi charmant était-il à certains moments, il ne pouvait pas franchir, il ne pouvait pas aller plus loin. Parce que sinon, c'était la catastrophe. Et pour moi, aujourd'hui, cette table, c'est celle qui me donne un accès direct à la croix. Et ça, c'est merveilleux. Et je peux vous dire que moi, j'ai deux choses dans ma vie que je dois veiller. C'est l'injustice. Je vous ai déjà dit, j'ai été victime d'injustice pendant 12 ans, avec des pertes financières colossales. Les choses sont en train de changer par la grâce de Dieu. J'ai voulu régler les choses par moi-même, ça n'a jamais marché. Depuis que Dieu commence à les régler, il y en a peut-être encore pour quelques mois, mais si tout va bien d'ici une année ou deux, tout sera réglé. Dieu rétablit toutes choses, mais il faut lui faire confiance. Et puis moi, j'aimerais tellement faire les choses par moi-même. Et plus je diminue, plus le Seigneur va augmenter. Et ça, c'est un principe qui échappe à mon contrôle. Je dois veiller à cela. Et la deuxième chose, excusez-moi, messieurs, mais je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous, messieurs. Nous sommes en été. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes en été. Moi, j'ai un métier où je suis dans une voiture du matin au soir, à côté de mon élève. J'ai essentiellement des jeunes filles dans ma voiture. Vous voyez ce que je veux dire? L'été a commencé tôt cette année, au mois de mai déjà. Mon métier me demande d'observer pendant une heure de temps mon élève, ses mains, ses pieds et ses yeux. Comment je fais? Dites-moi, les inspecteurs au bureau des autos ont le même problème. Comment on fait, nous, en tant qu'hommes? Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a des jolies jeunes filles qui sont habillées d'une certaine manière excentrique, où le haut descend très bas, où le bas monte très haut, vous avez compris? Comment je gère ça? Et quand j'en parle à la fille, c'est pas mon problème, c'est ton problème. Effectivement, c'est mon problème. Je lui dis, oui, mais tout ça, mon examen et tout ça, il faut quand même juste gérer la chose. Nous, il faut qu'on puisse faire notre travail correctement. Alors, moi, personnellement, je pense avoir réglé le problème. Mais il y a un moment donné, quand c'est toute la journée, c'est pénible. Parce que quand même, dans le conscient, ou même dans le subconscient, il y a quand même des petites choses qui travaillent. Alors ça voulait me dire, mais c'est rien du tout, c'est de la bricole. Mais maintenant, c'est pas de souci. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut aller dans un couvent, bien loin de là. Mais il y a des endroits où on peut se permettre des choses comme ça, mais il y a des endroits, je pense, qu'il faut faire attention. Et moi, je dois veiller par rapport à ça. Et ça, c'est une porte ouverte à l'adversaire. Et ça commence par des petites choses comme ça, et après ça va beaucoup plus loin. Et après, c'est la catastrophe. Et moi, je sais, c'est ça. Voilà, ça, c'est mes deux points noirs pour sur lesquels je dois être extrêmement vigilant. Alors, moi, j'ai dit, les filles qui sont avec moi, dans la voiture, elles le savent. Chaque fois qu'elles viennent, maintenant, tu viens à peu près correct, point. Puis tout va bien. Tout va bien. Elles sont à l'aise, moi, je suis à l'aise, tout va bien. Tant mieux. Ben voilà, hein, c'est ça. Donc, chacun connaît ses points forts ou ses points faibles. Et il doit veiller sur cela. Je vais terminer gentiment. Et c'est beau. C'est beau de voir comment Dieu nous parle encore aujourd'hui. Et dans cette table, pour moi, c'est la table de la Sainte-Seine avec la parole de Dieu, avec cette parole de Dieu ouverte. Et cette parole de Dieu, c'est vraiment la lumière pour chacune de nos vies. C'est quelque chose de tellement fort, de tellement bon. Il est dit dans la parole de Dieu, sauf erreur, si nous avons péché, vous rendez compte que nous avons un avocat. Nous avons un avocat, et je peux vous dire que je connais les juristes et je connais les avocats. Mais l'avocat qui est là-haut, il est moins cher, il n'est pas à 500 francs de l'heure, et je peux vous dire que c'est efficace. C'est long parfois. C'est comme la bonne semence, hein. Il faut obéir, il faut se soumettre. Et ça, c'est l'école. Mais ça vaut la peine. Et la bénédiction, elle est là. Moi, je suis ébahi de voir si les choses sont en place, si l'Éternel devient progressivement mon berger, en sachant que je peux faire des écarts, comme chacun d'entre nous, mais les choses changent. Et ça peut aller très, très vite. Beaucoup plus vite que par mes propres capacités, et beaucoup plus efficace surtout. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le Juste. Alléluia. Et Paul qui nous rappelle là où le péché a abondé, mais la grâce surabonde. En résumé, ce psaume 23, quelle richesse. Je vous assure que David, il en a bavé, hein, pourtant. David a été cet homme de Dieu, il a fait des bêtises aussi, hein, David. Un homme comme vous, comme chacun d'entre nous, un être humain. Il a fait des bêtises, mais il a été béni. Ça a été cet homme de Dieu incroyable, qui a vécu des guerres, qui a vécu des combats, qui a vécu toutes sortes de difficultés, mais qui est toujours sorti vainqueur. Cette promesse, cette certitude, ce Dieu qui est mon berger, qui me protège, qui m'amène à la vie, qui m'amène à être déterminé à choisir cette bénédiction et à m'éloigner de la malédiction. Le problème de notre société, c'est que c'est gris. C'est pas oui ou c'est pas non, c'est à peu près et c'est entre deux. Tout est permis, tout n'est peut-être pas utile, mais tout est permis. Non. Soit on est du côté de la bénédiction, soit on est du côté du monde de la malédiction. Prise de position pour chacun de nous. Obéissance, dépendance de plus en plus en Dieu. Cette humilité, ce rappel de la conversion, ce rappel peut-être de notre baptême d'eau également, et cette vie éternelle promise. Et ce qui est extraordinaire, et ça c'est la force de l'Église, et je reviens au tout début de ce que j'ai dit, il y a une force en chacun de vous, il y a une bénédiction, il y a des dons, il y a des talents en chacun de vous. La difficulté parfois, c'est que des fois on n'y croit pas. Ou bien, justement, l'ennemi de nos âmes essaye parfois de nous retenir dans l'appel qu'on a reçu ou dans la bénédiction ou dans les talents qu'on a reçus. Ça, c'est un mensonge, il faut le dénoncer. Il y a une bénédiction, il y a des valeurs incroyables. Et à titre personnel, c'est extraordinaire, mais en tant que communauté, c'est une force. C'est ainsi qu'on va repousser tous les traits enflammés du malin. Et je vous assure que l'Église, nous sommes ici aujourd'hui, mais cet automne, nous serons plus loin. Cet hiver prochain, nous serons plus loin. Et l'année prochaine, nous serons plus loin. J'espère qu'une fois, on fera... On a déjà un culte le matin. On a maintenant le culte le soir, sauf l'été. Peut-être qu'on aura deux cultes le matin, comme en Corée bientôt, etc., etc. C'est la bénédiction. Quand je vois la jeunesse aujourd'hui, le groupe de jeunes, mais c'est beau. C'est beau. Alors bien sûr qu'il y a des combats, il y a parfois des petites marches en arrière, c'est pas grave. On continue. C'est la vie dynamique. Il ne faut jamais, jamais retourner en arrière. L'apôtre Paul disait, mais je cours dans le stade. Je cours, pourquoi ? Pour moi, avec mon truc, là ? Non, je cours pour remporter le prix. La vocation céleste. Et ça, c'est encourageant. Tant que le Seigneur a voulu que nous soyons dynamiques, heureusement. Ah, si le Seigneur nous avait fait statique, oulala, moi je crois que je ne suis pas là, on serait malheureux. Mais le Seigneur nous a fait dynamique. Alléluia. Soyez bénis, passez vraiment un été super. Et puis prions les uns pour les autres. Et je crois que c'est important qu'on mette toute une haie de protection sur toute la communauté. Le temps d'été, c'est un temps de bénédiction, mais parfois c'est aussi un temps de relâchement qui peut aussi ouvrir parfois des portes et qui peut aussi parfois nous ennuyer. Voilà.